Alors, dans cette table ronde, nous allons nous intéresser au passage du temps dont on a discuté en physique, qu'il peut être réversible dans certains cas, notamment dans l'infiniment petit. Cette fois, on regarde les choses à notre échelle ou à l'échelle des bâtiments, des ouvrages humains, des moteurs, des choses vraiment construites par les humains. Les matériaux subissent de la corrosion, de l'érosion, des fissurations, de l'effritement, du délitement, de la désagrégation, de l'effondrement. Tout ça, ce sont des signes du passage du temps, et ce sont ces passages du temps que l'on décrit dans les littératures ou que l'on dessine dans la bande dessinée. Et par ailleurs, les scientifiques étudient ces signes-là, les étudient et essayent d'y trouver des remèdes dans certains cas. Donc c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Enfin, dans cette table ronde. Et pour en discuter, j'ai à ma gauche Denis Bajram, auteur de bande dessinée, auteur de Universal War, entre autres. J'ai essayé d'aller dans l'ordre. On a Valérie Lostis, qui est ingénieure-chercheuse spécialiste du comportement des ouvrages en béton armé et qui dirige le laboratoire d'études du comportement des bétons et des argiles au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. À côté d'elle, nous avons Philippe Aubert-Côté, qui est auteur de romans, sous diverses influences, qui a fait des études de biologie, qui a fait de la bioéthique aussi, et qui s'intéresse notamment à la question des nanotechnologies, entre autres, et dont le dernier roman paru est « Le jeu du démiurge ». Et tout au bout, nous avons Marion Cuny, qui répare tout ce qui lui tombe sous la main, paraît-il, et qui a fait des études de génie mécanique et en sciences des matériaux, et qui a un doctorat en mécanique, et qui actuellement est ingénieur chez Safran sur des moteurs d'avion. Alors, première question que je voudrais poser aux créateurs, aux gens qui sont dans l'imaginaire et qui décrivent les choses, que ce soit par le dessin ou par les mots. Quand vous voulez décrire le passage du temps, sur quels détails, sur quels éléments allez-vous vous reposer pour le faire au mieux ? Quels mots, quel dessin, quelle particularité du dessin ? Qui veut commencer ?
Eh bien, dans mon cas, j'ai mis en scène à quelques reprises des mondes qui étaient assez loin dans le temps par rapport à nous. Donc, le jeu du démiurge, oui, qui se passe aux environs de l'an 3000, quelques années près. Et j'ai aussi fait une novella un peu post-apocalyptique, ça va être dans la lignée de la table ronde précédente, qui s'appelle « Pour l'honneur d'un homme ». Ces deux univers-là, ces deux histoires ont en commun de n'avoir que très peu ou pas d'êtres humains comme personnages. C'est des post-humains qui ont remplacé, ou même des chimères humains-animales. Et j'ai employé certains stratagèmes, mais quand même différents un peu, parce que c'est pas le même type de science-fiction non plus. Dans « Pour l'honneur d'un homme », eh bien, on raconte l'histoire d'une expédition qui est composée d'hommes animaux qu'on appelle des ouragues et d'autres créatures humaines, végétales et autres, qui, après un effondrement mondial où les êtres humains ont disparu pour toutes sortes de raisons et où les post-humains ont survécu parce qu'ils étaient plus résistants aux guerres et à la pollution et tout ça, reconstruire leur civilisation en allant recycler des villes qui ont été abandonnées ou dévastées. Et la novella raconte l'histoire d'une expédition qui va cartographier les ruines de Moscou pour voir quels matériaux, justement, béton, métal ou autre, on peut recycler. Il arrive toutes sortes de péripéties parce qu'évidemment, il reste encore des descendants d'êtres humains qui ont muté sur place. Et c'est un peu une version science-fiction des premiers contacts qu'il y avait entre explorateurs européens et indigènes, si on veut. Dans cette nouvelle-là, j'ai beaucoup recouru aux ruines. Évidemment, c'est un monde post-apocalyptique. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la chute des villes.
Combien de temps à peu près ça se compte en siècle, en millénaire?
Un siècle environ. Et pour créer le décor, je m'étais basé sur un livre. Le problème, c'est que je le confonds avec un autre. Je pense que ça s'appelait Homo Disparitus, qui avait été publié il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prenait comme postulat dans ce livre, bon, les humains disparaissent tout d'un coup, comme ça, en claquant des doigts. Et voici comment les villes se dégradent. Donc, un jour après, 10 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 1 siècle. Donc, c'était très bien détaillé. Puis, c'était une mine d'or pour faire du post-apocalyptique. C'était très plausible aussi. Donc, je m'étais beaucoup inspiré de ça. Donc, les ruines, c'est toujours fascinant. C'est toujours joli à regarder aussi. Enfin, on trouve joli ce qu'on veut. Mais c'est un bon indicateur. C'était de prendre des lieux communs. J'étais allé prendre des guides touristiques sur Moscou. C'est une ville que je ne connaissais pas. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi pour cette histoire-là. Je me suis dit, New York, je la connais. Montréal, je connais. Donc, j'allais prendre une ville que je n'ai jamais visitée. Donc, j'avais pris soin de placer des bâtiments réels et de les décrire, mais sous une forme dégradée. Donc, le lecteur peut reconnaître, il y a une station de métro que j'ai un peu trafiqué, mais on peut très bien retrouver son pavillon, le pavillon que j'ai décrit dans certains ouvrages. Et j'ai pris soin de dégrader le tout. Donc, ça, c'était pour l'honneur d'un homme. Dans le jeu du démiurge, ça se passe sur une autre planète. Donc, je ne peux pas montrer de ruines, hormis celle des colons post-humains qui ont commencé à construire un monde qui s'est effondré. Mais pour le démiurge, j'ai beaucoup recouru à des schémas pédagogiques. Il y a une sous-race de post-humains qu'on appelle des Mikai qui vont à l'école et il y a toutes sortes de fresques pédagogiques qui montrent l'espace, comment leur planète a été colonisée par ceux qui les ont créés. Il y a une race de post-humains qu'on appelle les Eridani. Et il y a plein de frises qui représentent l'évolution de l'être humain. Donc l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'être humain. Et là, on arrivait aux cyborgs, à d'autres post-humains et finalement aux Eridani. Donc l'emploi de cette image-là permettait de passer l'idée que il s'était quand même écoulé beaucoup de temps depuis notre époque, puisqu'il y avait eu d'autres stades de l'être humain. Le lecteur est capable de comprendre que, entre chaque stade, entre les derniers stades et les. Que entre chacun des derniers stades, il s'est écoulé peut-être quelques siècles ou un millier d'années, alors que dans les premiers, c'est des millions d'années. Mais ça peut renvoyer l'idée que, mon Dieu, si nous, on est une étape antérieure dans un schéma d'évolution, il s'est quand même écoulé beaucoup de temps. Un peu. Et j'ajouterais que je verrais une autre stratégie intéressante à exploiter, que j'aime bien dans les films de science-fiction, c'est l'approche du musée. C'est de faire visiter à des gens un musée dans lequel le lecteur va reconnaître des objets qui sont contemporains. Ou même des images de personnes récentes, mais qui sont vieilles, défraîchies. H.G. Wells recourt au stratagème dans La machine à explorer le temps, quand l'explorateur du temps visite le palais de Jazz. Bon, ça sonnait comme jazz, mon affaire, c'est pas la même chose, où il y a plein d'objets, d'artefacts de l'époque victorienne, y compris une boîte d'allumettes qui brûle encore. Ce que, je vais pardonner à l'oncle Herbert d'avoir commis cet impair-là, mais c'était une approche intéressante aussi, que des objets contemporains finissent par être une pièce de musée. Et à une époque où j'ai donné des cours d'histoire des sciences à l'Université du Québec à Chicoutimi, comme chargé de cours, je parlais du post-humanisme à mes étudiants dans le volet éthique, dans le chapitre sur la science du futur, et je leur avais posé je leur avais dit, imaginez, si un jour l'humanité est remplacée par autre chose, peu importe ce que cette autre chose est, peut-être qu'eux vont regarder des photos de nous aujourd'hui dans un musée, puis ils vont dire, mon Dieu, c'était nos ancêtres, tout comme nous, on regarde des images d'Australopithèque aujourd'hui. Donc, il y en a que ça faisait rêver, d'autres que ça figeait complètement. Mais cette idée-là du musée, que nous, on peut être une pièce de musée, ça peut être aussi une stratégie intéressante.
Denis, en dessin.
Il y a déjà beaucoup d'albums fondateurs de la science-fiction en bande dessinée qui sont des albums de destruction. Le premier Valérian, La cité des eaux mouvantes, donc tout le monde, je pense, se souvient de la couverture d'un New York envahi par la jungle avec des immeubles dégradés. On est dans cette idée-là d'un futur possible qui est celui du futur détruit. Donc, et c'est des images qui sont extrêmement belles à faire et très satisfaisantes à regarder en général. Moi, j'ai toujours fait de la science-fiction, donc je me suis vite posé ces questions-là. Surtout qu'en fait, à partir des années 80, on est passé de la science-fiction dans les années 50, une fusée, c'est tout rond, tout lisse, peint avec des damiers rouges et blancs, c'est super propre, c'est passé au Karcher avant chaque décollage, après chaque décollage. La fusée de Tintin, elle arrive, elle est propre, hein. Enfin, c'est absolument pratique. Et parce que on est dans une stylistique de la modernité, on est encore en pleine modernité. Il faut que le monde avance et tout est neuf tout le temps. Et les Cadillacs ont des ailerons roses. C'est magnifique. Dans les années 70, avec Alien, particulièrement le film, il y a vraiment une bascule vers le sale. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce monde idéal, ces lendemains qui chantaient, sont en train de déchanter. Il y a eu la crise économique, il y a le Vietnam, il y a tout ça. Et on commence à représenter le futur comme ce futur qui serait sale, qui aurait vieilli, qui serait pas si beau que ça. Et moi, je suis de ces générations-là. Donc, très naturellement, quand j'ai commencé sur mon premier album Cryozone, je me suis posé la question de savoir si mon vaisseau, qui était tout neuf, alors c'était un vaisseau qui devait aller coloniser une planète, qui venait d'être construit, où il y avait 10 000 personnes en cryogénie, j'ai commencé à le dessiner tout propre, et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ça, tout propre, ça ressemblait à un iPod neuf, quoi. Et ça n'allait pas. Et je l'ai fait sale alors qu'il était neuf. En me disant, les gars, ils ont mis quand même peut-être une décennie à construire ça. Et il y a déjà des parties dans l'atmosphère artificielle qui ont commencé à avoir des petites pointes de rouille, des petits éclats, etc. Et en plus, alors, au milieu de l'histoire, il y a la cryogénie a un petit problème, et en fait, les gens se réveillent, mais zombies. Donc, faire des zombies dans l'espace, dans un truc tout neuf, ça aurait vraiment été très bizarre. Donc voilà, ce premier livre a tout de suite été marqué par ce... Alors, j'avais regardé ce que faisait, par exemple, Otomo dans Akira, le manga japonais de référence à l'époque. Et je m'étais demandé comment il arrivait à faire ce Néo-Tokyo qui était à la fois constitué de buildings qui avaient l'air de faire 2 km de haut, mais qui avaient l'air d'être en mauvais état. Et alors, j'ai regardé de près à l'ancrage, c'était très drôle. Il faisait un trait droit, et puis il passait un deuxième trait tremblotant qui coupait plus ou moins ce trait-là. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire le truc tout neuf et qui est déjà ébréché. Et j'ai commencé à réfléchir par rapport au fait que voilà, la ligne, il fallait à la fois qu'elle soit nette et à la fois détruite pour que déjà, dès le graphisme, il y ait ce sentiment de saleté. Donc dans Universal War One, là, on est vraiment dans des flottes spatiales qui ont l'air de traîner dans l'espace depuis déjà 20 ans, comme un bateau. Les vaisseaux sont aussi sales que s'ils avaient été dans l'eau de mer, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que l'usure de l'eau de mer, cette corrosion comme ça. Quand on est graphiste, on a toujours envie de prendre des photos de bouts de coque, on a des espèces de mélanges de la peinture d'origine, de la rouille qui est en train d'envahir, etc. Voilà, donc la représentation du temps en dessin, elle est avant tout dans l'usure des matériaux, quoi. C'est vraiment un vrai plaisir.
Alors, on fait circuler quelques images de ruines réelles, et par exemple, voilà, encore envahies par la végétation. Il y a aussi pas mal de planches de dessins de Denis Bajram sur Universal War II, où on voit beaucoup de ruines. Les ruines, que ce soit en mots ou en dessin. Comment vous...
Là, il y a du Bilal.
Et on a du Bilal.
Un des champions de la saleté, justement, voilà. Oui.
Comment vous rendez l'usure des matériaux de construction ?
Je suis un grand amateur d'histoire et d'architecture en particulier, et je passe mon temps à mon plus grand plaisir, c'est de rentrer dans un bâtiment et de le dater, qu'il soit du XXe siècle ou du millénaire précédent. Rentrer dans une cathédrale gothique et dire tiens, cette partie était faite avant celle-là, etc. C'est un plaisir de autant d'ingénieurs que d'historiens, et je regarde beaucoup ça. Et donc j'ai aussi beaucoup regardé les ruines. Comment les pierres tombent, qu'est-ce que c'est qu'une voûte, combien de temps on la voit après qu'elle soit tombée, etc. Donc dessiner ça. Alors je me suis retrouvé dans une situation où je voulais décrire un endroit où sont enfermées des planètes, une prison de planètes en fait, et de civilisations, les civilisations qui ont été méchantes, on les met en prison. Et elle reste dans une prison jusqu'à qu'elle s'éteigne. Et donc, en fait, à un moment, il y a une séquence dans laquelle on traverse ces planètes en prison avec des civilisations qui sont toutes tombées plus ou moins tôt. C'est les images qu'on voit là. Et c'est vrai que j'ai vraiment appliqué là tout bêtement l'observation de ce qui arrive aux monuments terriens. Alors, vous vous posez des questions. Seulement, il y a des arches. Je ne sais pas en quel matériau, qui ont l'air de monter quasiment jusqu'à se tamponner avec la Station Spatiale Internationale. Quoi. Donc comment déjà en construire des choses aussi hautes? Et puis alors, comment elles pourraient se dégrader sans tomber? Donc on finit par à des moments faire des choix esthétiques, évidemment, parce que là déjà on ne sait pas comment on va construire la chose, alors comment la détruire. Donc on finit par dire comment signifier qu'elle est détruite. On s'amuse à faire un éclat comme s'il y avait eu un météorite qui était passé à travers. Des choses comme ça, voilà. On commence à introduire des idées qui sont plus proches de la science-fiction spatiale que du monumental terrien. Quoi.
Alors, scientifiquement, comment on étudie ces choses-là? C'est-à-dire que le béton, c'est un matériau composite. Quelle vie, là? Comment il évolue dans le temps? Comment il marque le temps?
Comment visuellement on observe le passage du temps sur l'ouvrage en béton et principalement le béton armé, parce que la plupart des ouvrages en béton sont armés, contiennent des armatures. Et en fait, la principale, on va dire, pathologie, c'est le terme technique, hein, pathologie des bétons armés, c'est lié à la corrosion des armatures. Donc, il y a deux aspects qui sont très visuels, soit par des mots ou soit par des images. Le premier aspect, c'est des fissures qui apparaissent dans le béton. On a aussi des éclats de béton qui peuvent tomber et qui laissent apparaître les armatures voyantes. Donc, en termes de couleur, j'imagine que ça peut être plutôt sympa. Et puis après, sur des ouvrages qui sont plutôt en bord de mer, la corrosion des armatures, elle se manifeste plutôt par ce qu'on appelle le béton qui saigne, c'est-à-dire là, plutôt des fissures associées à des coulures de rouille. Donc là, on a plutôt des couleurs rouges, des couleurs marron qui colorent le mur en béton ou le pont, par exemple, qui passe au-dessus de la mer. Donc ça, c'est la principale maladie du béton, la corrosion des armatures. Donc c'est celle, moi, j'ai l'impression, qui est représentée le plus souvent dans les ouvrages de science-fiction. Mais après, il y a d'autres pathologies possibles. On peut avoir, par exemple, des multifissures, notamment sur, par exemple, des barrages. On peut avoir des ouvrages qui sont multifissurés, tout ridés, en fait, quasiment tout ridés. Là, je n'ai pas trop vu, moi, d'ouvrages qui représentaient ce type de vieillissement. Là, c'est vraiment des maladies intrinsèques aux matériaux. Donc, c'est lorsqu'il y a eu, par exemple, un mauvais choix de ciment ou de cailloux, ou bien un environnement, une température qui a été un petit peu trop haute ou un environnement un peu trop agressif. Et en fait, le béton armé, il développe ces pathologies en association avec l'environnement dans lequel il est placé. C'est pour ça que si on représente un bâtiment dans un milieu urbain, loin de la mer, on n'observera pas le même type de pathologie que lorsque l'ouvrage est en bord de mer. Donc nous, au laboratoire dans lequel je travaille, on regarde tous ces aspects-là, on prélève des échantillons de matériaux sur des ouvrages qui existent, qui sont plus ou moins anciens, pour nous aussi observer ce qui s'est réellement passé, mais au cœur de la matière. Et puis ensuite, on essaye de comprendre quelles ont été les phases de destruction ou le processus chimique, physique ou mécanique d'avancée de la dégradation, puis le modéliser et prédire en fait par des modèles mathématiques le devenir de ces ouvrages. Donc nous, le passage du temps, soit on va le mesurer sur l'ouvrage, soit on va le représenter via une approche mathématique et informatique en fait.
Alors je ne sais pas si vous avez retenu quelques mots qui sont utilisés pour décrire le vieillissement du béton, qui m'ont choqué aussi quand on a préparé ensemble. Ce sont des termes qui pourraient s'appliquer au corps humain. Il y a le saignement, il y a la pathologie,
ouais.
Il y a la ride.
Oui, tout à fait. Alors la ride, c'est pas le terme technique. C'est le terme effectivement qui peut être vulgarisé, on va dire. Mais on parle aussi, le premier mois en fait, pendant lequel on construit un ouvrage, on parle du jeune âge du béton. Donc c'est assez. Et puis je vous expliquais que quand on est au laboratoire, on parle d'autopsie d'échantillons, carrément, donc voilà, de pathologie. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de voir que le verbatim en fait, est le même pour des humains et pour les ouvrages en béton. Ouais.
Philippe Aubert.
C'était une remarque que je voulais faire justement parce qu'en écoutant madame, je me disais, mon Dieu, qu'il y a de quoi puiser des belles métaphores, et je me disais que c'est quelque chose qui va sûrement intéresser les apprentis auteurs dans la salle, de partir d'une description technique et de son vocabulaire et de dire, si c'était un être humain, quel mot je pourrais employer? Donc, prendre les mots qu'on applique à l'être humain et l'employer à un bâtiment. Donc, quand vous avez parlé de fissures, moi, j'ai vu des rides, les taches de couleur, les taches de vieillesse, et même les barreaux de métal qui rouent et qui épaississent, c'est comme de l'arthrite. Et je me souviens que pour décrire un bâtiment effondré, dans une de mes histoires, où il y avait un système de tuyauterie spécial qui est tout ce qui avait survécu, je disais que c'était le squelette du bâtiment qui était resté, le reste étant décomposé.
Tout à fait, ouais.
Donc, partir du technologique et trouver un vocabulaire humain qu'on réapplique, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, les apprentis auteurs dans la salle, prenez des notes. Écoutez, madame, non?
On voit aussi dans certains dessins de Denis Bajram des carcasses qui sont rongées par le sable, ces espèces d'armatures qui sortent du béton armé cassé. Ça fait un peu carcasse, effectivement.
Ouais, tout à fait, on peut représenter. Enfin, nous, ce qu'on observe scientifiquement, c'est beaucoup de couleurs différentes. Quand on parle de corrosion des armatures, corrosion du fer, même on revient sur les coques de bateaux en bord de mer, on a vraiment des couleurs très très sympathiques qui vont du marron au rouge, même au vert. On a des rouilles, en fait, ça, des rouilles vertes. Et après, sur d'autres types de métaux, mais peut-être que Marion en parlera mieux que moi, sur l'aluminium, on a la rouille blanche, le cuivre, le bronze. Donc c'est vrai que c'est source de... J'imagine pour les illustrateurs de forte inspiration, c'est ces couleurs.
Oui, et pour les couleurs, moi souvent je pense en termes de gravité, parce qu'en effet, la rouille descend, les mousses se posent uniquement sur certaines faces par rapport au soleil, etc. Donc si on s'amuse à avoir par exemple un éclat dans le béton, qu'on le reproduit sur différents éléments, on mettra toujours du vert d'un côté parce que les mousses seront développées que d'un côté. De l'autre côté, on restera au béton nu et ainsi de suite. On aura la rouille qui redessinera le bâtiment. Etc. Et tout ça. Alors, il y a des dessinateurs qui réfléchissent pas en termes de physique. Je dirais que souvent, la majorité, qui vont commencer à faire de la rouille, qui fait des circuits, quoi. Parce que c'est beau, hein, avec le pinceau, on se laisse aller, etc. Moi, c'est vrai que quand je la ferai, j'aurais tendance à la faire couler et je serai en train de réfléchir, est-ce qu'il y a assez de moussons sur cette planète pour qu'il y en ait, quoi. Donc, c'est.
Marion, sur le vieillissement des métaux, vous n'avez pas la même réaction selon le métal ? Et qu'est-ce qu'on a comme réaction ? On a la rouille ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ?
En fait, on parlait tout à l'heure justement de vocabulaire humain. On peut aussi parler de mémoire en termes de matériaux structurés et de métaux. Et donc, en fait, oui, il y a un certain nombre de phénomènes qui vont impacter les métaux, donc, et qui sont liés au temps. Donc, certains qui sont vraiment liés au sens physique du terme. Donc, on va dire l'absolu temps majuscule, alors même s'il faut faire attention avec tous les astrophysiciens qui traînent dans les utopiales. Mais par exemple, on a parlé de la dégradation, il y a par exemple aussi un phénomène qui est un phénomène d'aérologie, qui est lié à la viscoélasticité, qui est le fluage, je crois, qui touche aussi les bétons. Mais à côté de ça, donc, il y a tout un tas de phénomènes, donc on va dire thermomécaniques, chimiques, électriques, qui vont venir impacter complètement le matériau, ce qui fait qu'on va graver son histoire, littéralement tout ce qui lui est arrivé, au cœur de sa matière. Et ça va s'exprimer à différentes échelles. Alors directement, si on fait une petite explication rapide, hein, généralement un métal, c'est un polycristal, c'est-à-dire c'est des petits grains de cristaux. Et un cristal, c'est quoi ? C'est une espèce, c'est un ordonnancement spécifique d'atomes. Sur un réseau. Donc on a une espèce de petite maille élémentaire qui se répète dans les trois directions. Et en fait, toute la genèse et toute l'histoire de ce barreau de métal va impacter sa structure, donc littéralement sa cristallographie, sa microstructure, c'est-à-dire l'organisation des différents grains de polycristal, ses propriétés mécaniques, ses propriétés électriques, et en fait, à toutes les échelles possibles du matériau, on va avoir vraiment toute l'histoire du matériau qui arrivait. Donc, quand je parle d'histoire, je parle de quoi ? Par exemple, là, il y a des photos d'épées, de katanas qui circulent. Les katanas, ils sont fabriqués comment ? Déjà, ils sont une première fois donc coulés. Une fois qu'ils sont coulés, ils sont forgés, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement chauffés, frappés, pliés, rechauffés, refrappés, repliés, etc., etc. Et donc ça va conduire à une organisation des grains de... Des cristaux d'une certaine façon qui vont impliquer des propriétés mécaniques bien spécifiques. Et donc là, pour le coup, voilà, on va pouvoir vraiment contrôler. Du coup, c'est grâce à ça que, par exemple, que maintenant on est capable, quand on retrouve des très vieilles épées japonaises ou même d'autres civilisations, on est capable de retrouver les procédés qui ont conduit justement à leur fabrication, parce qu'on est capable de revenir jusqu'à leur histoire. Et c'est très intéressant de savoir justement que les matériaux ont vraiment, enfin, au moins les matériaux structurés ont vraiment une mémoire très impressionnante.
Et donc, on peut agir sur cette histoire du matériau pour en obtenir les meilleures propriétés mécaniques possibles. Est-ce que le graal des ingénieurs, c'est de trouver le matériau le plus résistant possible, qui ne va pas marquer justement le passage du temps ? C'est quoi les progrès dans ce domaine-là ? On arrive à trouver le matériau idéal ?
Alors, le matériau idéal, oui, mais pour quelle application ? C'est-à-dire que le matériau parfait n'existe pas. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on voudra un matériau qui résiste vraiment à des contraintes très importantes et qui ne bouge pas du tout. Dans d'autres cas, on va justement vouloir qu'il se déforme. Je prends toujours le cas des voitures. Dans les années 50, on avait des voitures qui, quand elles avaient un crash, ne bougeaient pas. elles avaient des raflures à la rigueur, mais il n'y avait pas de soucis. Par contre, les personnes qui étaient à l'intérieur étaient mortes. Pourquoi ? Parce que c'était elles qui absorbaient l'énergie. Depuis, on a construit des voitures où quand vous avez le moindre petit truc, l'intégralité de l'avant de votre voiture s'écrase. C'est problématique pour votre voiture, mais les gens à l'intérieur sont vivants. Là, on a fait un matériau qui était vraiment adapté à ce qu'on voulait faire. Donc, oui, on recherche les matériaux parfaits. Je pense même sincèrement que ça va être la source de progrès technique sur les machines les plus importantes du siècle prochain. Mais voilà, il n'y a pas deux matériaux parfaits au sens avec le parfait, le matériau avec un M majuscule et parfait avec un P majuscule. Vraiment, ça va vraiment dépendre de l'application et de ce qu'on veut en faire.
Dans la construction, ça va être quoi le Graal ? Vous travaillez aussi sur les enceintes de confinement des centrales nucléaires. Est-ce que du coup, ces bétons-là vont avoir une évolution différente ? Et si on avait un conseil à donner à un dessinateur, par exemple, qui voudrait décrire une situation post-accident nucléaire, est-ce qu'il faudrait qu'il traite ce matériau-là différemment que les autres ?
Par rapport à avant, vous voulez dire, par rapport au progrès au niveau du matériau ?
Par rapport à un béton du bâtiment normal.
Alors, c'est vrai que le béton qui est construit ou qui est élaboré, il est élaboré en fonction, justement, de sa fonction, de la fonction qu'il doit assurer. Il y a trois types de fonctions. Il y a une fonction d'étanchéité, une fonction d'esthétique, qui est la fonction que vous connaissez le plus, puisque l'esthétique, c'est par exemple tous les monuments historiques. Il y a une fonction d'étanchéité. Donc là, on va parler des enceintes de confinement, par exemple, ou même des silos à grains, par exemple aussi, en bâtiment industriel, où les aéro-réfrigérants peuvent l'être. Et puis, on va avoir une fonction structurelle. Là, on va penser au pont. Le pont, lui, ne doit pas s'effondrer, il doit tenir structurellement. Donc, l'architecte, le constructeur de l'ouvrage, il va dimensionner l'ouvrage en fonction de ce qu'il va rechercher. Donc, on peut parler, par exemple, le MUSEM qui est à Marseille. On a une construction qui est typiquement en dentelle, qui est ultra fine. Mais du coup, pour lui assurer une certaine durabilité, on parle de durabilité ou de longévité, là, on a un béton qu'on appelle un béton à ultra haute performance, un béton même fibré à ultra haute performance. Donc, c'est un béton. Normalement, le béton, c'est un matériau qui est poreux. Il faut vous imaginer que c'est une éponge, en fait, minérale. Là, on va chercher à fermer au maximum les porosités, en faire un béton le plus dense possible, de manière à ce qu'on puisse en faire un béton le plus fin possible. A contrario, lorsqu'on va travailler sur un bâtiment qui a une fonction d'étanchéité, là, on va plutôt travailler sur un bâtiment épais. Et donc là, ça ne sera pas du tout le même type de béton. Ça sera un béton qui résistera à une forte épaisseur. Donc au moment de sa construction, il y a des réactions chimiques qui se produisent pour que le béton prenne, parce qu'au départ, en fait, sur un chantier, vous voyez bien le camion toupie, hein, donc le béton, en fait, il est liquide au départ, et au bout de, c'est magique, hein, au bout de quelques jours, le béton, il est dur. Donc c'est ce qu'on appelle la prise du béton. Mais pour un bâtiment qui est très épais, en fait, cette réaction de prise, elle est associée à une réaction qu'on appelle exothermique. Ça chauffe. Et plus c'est épais, plus ça chauffe, en fait. Donc, il faut avoir des bétons spéciaux pour des ouvrages plus épais. Typiquement, les barrages, ils ont des bétons spéciaux qui ne vont pas beaucoup chauffer au moment de la prise. Et ensuite, le troisième type de fonction, c'est la fonction esthétique. Donc là, c'est un cas un petit peu particulier, parce que là, on va travailler surtout sur des monuments historiques. Donc, au moment de la réparation du monument, l'architecte va essayer de reproduire au maximum le procédé de construction de l'ouvrage, le type de matériau. Donc là, il y a d'autres types de contraintes. C'est un milieu vraiment spécifique. Et le passage du temps en fonction de ces trois fonctions, en fait, je répète le mot fonction, je suis désolée, ne va pas avoir les mêmes signes. Dans le cas de l'esthétisme, de la fonction esthétique, on va dire que la durée de vie, en fait, de l'ouvrage, ça va être le moment, ça va s'arrêter au moment où le premier éclat de béton va tomber, alors si possible sur personne, mais sinon malheureusement sur un passant. Donc là, on va dire, ah désolé, là il faut réparer, le bâtiment, il ne remplit plus sa fonction esthétique. Deuxième type de fonction, c'est l'étanchéité. Mais là, à la moindre apparition d'une fissure, qui est un court-circuit pour le passage d'un gaz ou de l'eau, là, il n'est plus étanche, donc il ne remplit plus sa fonction. Et sur le critère de la fonction structurelle, alors là, il ne faut pas avoir une diminution, par exemple, de l'épaisseur de béton ou d'épaisseur d'acier suffisante pour faire effondrer le pont. Et malheureusement, on a des cas assez médiatisés, notamment en Nord-Amérique, de ponts qui s'effondrent liés à la corrosion des armatures qui génèrent une perte de résistance mécanique.
Alors, sur les métaux, est-ce que le passage du temps peut être positif, c'est-à-dire on a parlé beaucoup là de destruction de matériaux qui s'abîment au cours du temps. Est-ce qu'il y a des cas où ça s'améliore comme le bon vin?
Oui, c'est-à-dire qu'on a il y a par exemple des réactions qui prennent un peu de temps, comme par exemple des réactions naturelles d'oxydation qui vont protéger en fait certains métaux. En fait, l'extérieur de la peau extérieure des métaux va s'oxyder et en fait ça va protéger tout le reste. Du métal, de l'oxydation, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'en gros, ça va créer vraiment une toute petite couche en peau qui va être protectrice. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. La patine, exactement, oui. Après, on a aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a aussi, dans certains cas, en fait, domestiqué l'usure. Dans le sens où, par exemple, il y a certains procédés qu'on appelle notamment le procédé du grenaillage, où là, le principe, c'est qu'on va volontairement créer une usure à la surface du matériau. C'est-à-dire qu'on va projeter des toutes petites billes sur une surface de métal. Ça va créer des petites formes, mais surtout ça va refermer toutes les micro-fissures qui sont en surface. Et donc en faisant ça, on va augmenter la résistance mécanique, enfin la résistance à la fatigue de ces pièces-là. Et donc elles vont tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour les pièces. Voilà, on peut vraiment, le temps, c'est pas forcément toujours délétère.
Philippe Aubert, vous avez.
Oui, mais en attendant ça, j'aurais une question. Est-ce qu'il existe déjà actuellement des métaux ou d'autres matériaux qui ont la réputation d'être extrêmement durables? Vous avez opposé durabilité, longévité tantôt, donc là je les emploie comme synonyme, mais qui peuvent durer très longtemps. Pourquoi je pose la question? C'est j'ai eu le flash d'une histoire de Jules Verne qui s'appelait L'éternel Adam, où un chercheur loin dans le futur découvre un cylindre dans son jardin qui renferme un récit. Le cylindre en question est composé, si ma mémoire est bonne, d'une enveloppe de cuivre et d'une enveloppe d'aluminium, et le cuivre s'est oxydé et est tombé en poussière. Et là, Jules Verne dit, mais l'aluminium avait résisté au temps. Pour Jules Verne, l'aluminium, je pense, c'était un métal qui était, waouh, le but pour aller sur la Lune étant l'aluminium et tout ça. Mais vous avez dit tantôt, justement, que l'aluminium peut s'oxyder et faire l'oxydation blanche. Donc, je reviens à la question, est-ce qu'il existe un matériau très durable, qui aurait pu être un peu l'espèce d'aluminium dont Jules Verne rêvait?
Encore, la question est un peu compliquée dans le sens où ça va surtout dépendre en fait, de l'environnement dans lequel est placé le matériau. C'est-à-dire que vous prenez un bout d'aluminium, un bout d'acier, vraiment un métal très basique, vous le mettez dans un environnement sous vide, dans un endroit à température ambiante qui ne bouge pas, il tiendra l'éternité, il n'y a pas de souci. C'est ce qui va vraiment. Un matériau pourrait tenir aussi toute l'éternité dans les bonnes conditions. Ça va tout dépendre. Après, oui, il y a certains matériaux qui sont plus ou moins sensibles à la corrosion et aux aspects extérieurs.
Mais si je voulais me construire une pyramide.
Ouais, moi, je pensais aux pyramides, voilà, justement.
Et être sûr que dans. Pas 4000 ans, hein, 10 000 ans, mais dans 100 000 ans, on va y retrouver mon corps qui aura disparu en poussière. Comment on fait?
Les pyramides, c'est un parfait exemple de longévité. Enfin, il y a tout ce qui a été construit aussi par les Romains, les viaducs, les routes.
Le Panthéon, avec sa voûte, ouais, en béton qui est toujours,
ouais,
debout.
C'est tout à fait. Le béton romain, d'ailleurs, on essaye désespérément de reproduire ce béton qui était spécifique et qui avait une très très grande longévité, effectivement.
Si vous allez à Rome, il faut aller voir le Panthéon et rester un peu à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on rentre, ça a l'air en très bon état, on se dit que ça a été retapé, etc. Mais à l'extérieur, le bâtiment, toute la partie brique est assez abîmée. Et il faut regarder, on arrive à voir les parties en béton qui sont dans un état mais remarquable. Et moi, au début, je croyais que c'était les fascistes italiens qui avaient retapé ça, quoi. Et en fait, non, c'est la partie initiale. C'est-à-dire qu'ils ont. Et le béton de cette voûte a résisté à tous les tremblements de terre qu'on détruit à peu près tout dans le coin. C'est vraiment très étonnant à voir. Et je ne sais plus quelle est la largeur de cette coupole, mais je crois qu'elle a été battue à Rome que par celle de Saint-Pierre de quelques mètres. Et que jusque-là, tout le monde avait reculé devant la difficulté à refaire ça, quoi.
Mais ce qui est amusant, c'est que dans les bâtiments, il y a des connaissances qui ont été perdues. Je me souviens, dans mon laboratoire, il y avait un thésard qui travaillait sur la caractérisation des marbres. Parce qu'en fait, il y avait des gens aux Émirats arabes unis qui voulaient reconstruire en fait, un bâtiment avec des grandes colonnes en marbre. Et le problème, c'est qu'on avait perdu la science pour les faire et les faire tenir correctement. Donc en fait, ils avaient besoin de remodéliser un peu le comportement de ce matériau-là pour savoir si ça allait tenir ou pas. Donc c'était, oui, il y a des choses qui ont été perdues à ce niveau-là.
Donc on ne va pas pouvoir me faire ma pyramide.
Si, mais ça va demander un peu de boulot.
Et sur les cathédrales, est-ce qu'il y a des connaissances qui se sont perdues ?
Les cathédrales, en fait, elles étaient construites à base de pierre et on a découvert assez récemment qu'elles étaient armées, en fait. La plupart des cathédrales, on pensait jusqu'à il y a quelques années ou quelques dizaines d'années qu'elles étaient uniquement constituées de pierre. En fait, il y a tout un réseau d'armatures qui était présent. Mais la différence avec un ouvrage actuel, c'est que les pierres étaient très épaisses, en fait. On avait plusieurs dizaines de centimètres de pierre autour de l'armature qui tenait une colonne. Donc, si on se place au niveau de l'intérieur de la cathédrale, ce n'est pas un environnement qui est agressif, donc il n'y a pas de raison que ça vieillisse particulièrement, la pierre. Voilà. Et même à l'extérieur, on peut avoir de l'érosion de la pierre, mais pas sur des dizaines de centimètres pendant 500 ans.
Il y a un cas particulier, c'est à Beauvais, où qui est la plus haute en termes de hauteur sous voûte. Et autour du cœur, il y avait une armature en métal. Ils ne savaient pas trop quand elle avait été posée. Elle a été déposée à un moment remplacé, ça a été une catastrophe en fait, ils ont remplacé par du métal neuf, et en fait ils se sont aperçus à ce moment-là que l'ancienne armature, qui datait du Moyen-Âge, était souple. Et en fait, ça permet... il y avait un encaissement du vent, c'était des amortisseurs entre tous les contreforts, c'était des amortisseurs avant, et ils ont dû, dans l'urgence, retrouver un matériau qui avait cette souplesse métallique, comme ça, alors qu'il y avait eu un fantasme, au contraire, de la rigidifier pour qu'elle ne bouge plus du tout. Surtout qu'il y a, quand même, il y a souvent des écroulements là-bas, donc...
Ils ont eu le même problème à la cathédrale de Metz, où ils ont, je ne sais plus à quel, je crois que c'était au début du siècle, ils ont démonté la cloche de la Mutte, donc qui était en gros l'équivalent du glas. Ils l'ont remonté, sûrement ils l'ont mal remonté avec une structure qui était un peu différente, et donc du coup maintenant ils ne peuvent plus sonner la muse, sinon ça fait écrouler la cathédrale.
Ceci dit, on a visité les tours de la cathédrale de Bayeux et on a découvert avec surprise que, alors il y a des cloches dedans, et en fait alors, c'est des tours romanes, hein, donc c'est construit au moellon, c'est tout bien rustique, tout bien carré, tout bien épais, tout bien normand, et au milieu en fait il y a une tour en bois qui n'est pas solidaire des murs et qui porte des cloches et qui date de l'époque. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient compris que s'ils accrochaient des cloches dans ce truc en pierre, au bout de 20 ans, il y aurait des fissures et les cloches emporteraient un jour, pendant un mariage, le tout sur la noce. Et en fait, c'est comme s'ils avaient fait un beffroi, alors ils l'ont fait après, mais c'est comme s'ils avaient construit une belle tour en bois. Alors le bois, c'est super, c'est souple, ça bouge avec les cloches, etc. Puis qu'ils avaient regardé à quelle distance ça allait, et puis qu'ils avaient construit leur enceinte esthétique autour de ça, et qui permettent quand même de protéger le bois, les cloches et les infiltrations d'eau, quoi.
Ça montre au passage qu'un matériau souple qui se déforme, qui accepte la contrainte, c'est aussi une bonne chose, comme quoi on n'a pas forcément besoin de chercher un matériau qui est très très rigide.
Et je pensais aussi au fait, à la question qu'on se posait tout à l'heure pour améliorer la longévité, de superposer des matériaux. C'est-à-dire le bois pour telle fonction, et puis on lui associe une pierre autour, voilà, pour que lorsque l'un se dégrade, c'est un système de poupée russe par exemple, donc lorsque le matériau le plus exposé se dégrade, et ben, ensuite on passe au suivant, etc.
Ce qui est toujours étonnant sur ces vieux bâtiments, c'est que c'est souvent quand même plus ou moins des exemplaires uniques à chaque fois. On a l'impression qu'ils arrivent à avancer des solutions assez complexes pour la première fois à des endroits qui ne serviront pas obligatoirement à d'autres. Parce que finalement, les pyramides d'Égypte, enfin, les solutions étaient trouvées et n'ont plus resservi. Alors, il y a des évolutions. On a dû perdre quelques bâtiments intermédiaires, etc. Mais aujourd'hui, dans une culture où, avec le livre, puis maintenant avec l'informatique, tout se conserve, donc toutes les expériences restent. Mais à ces époques-là, on découvre sans arrêt des chefs-d'œuvre de génie humain avec le mélange des matériaux, justement, de choisir telle pierre, tel métal, ne pas se tromper de pierre. Par exemple, les pierres, on imagine que la cathédrale, on va à une carrière, on ramène des pierres. Mais en fait, non, il y a des pierres très solides, des pierres très tendres, au contraire. Et ce n'est pas que pour la sculpture, c'est-à-dire qu'il y a des pierres plus légères. En haut, on met de la pierre légère. En bas, on met de la pierre qui résiste au poids des pierres au-dessus. Enfin, c'est tout un... Et ça dépend selon les cathédrales. Parce que déjà, les carrières s'épuisent, donc il faut aller rechercher des pierres. Ils refont des tests et il y en a quand même assez peu qui se sont écroulés. Donc il y a un véritable génie à chaque fois à inventer les matériaux au sens où on dit inventer, découvrir quelque chose, quoi.
Alors nous, on a une contrainte à l'heure actuelle qui est la contrainte temps, mais là, pour le coup, temps de la construction. C'est-à-dire que le temps d'une construction d'une cathédrale, c'est plusieurs dizaines d'années. Les pyramides, je ne sais pas, je n'ai pas l'info, mais enfin, ça a dû prendre plusieurs dizaines d'années.
On pouvait faire des essais alors qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui, le viaduc de Millau, il a été construit en quelques années ou quelques mois. Enfin, donc on a une contrainte temps qui fait qu'au niveau des techniques de construction et au niveau des matériaux, je pense qu'on ne s'y prend pas du tout de la même façon. Et du coup, peut-être que ça explique des différences aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, les ingénieurs, dans leur logiciel de conception, ils ont les résistances des matériaux, tout ça est déjà, dès le départ, on peut commencer presque à dessiner avec les bons matériaux et les bonnes résistances.
Oui, tout à fait. Il y a des normes, en fait. Alors, j'imagine que c'est peut-être pareil dans les métaux, en tout cas dans les constructions, il y a des normes de construction qui dépendent, là encore, de la fonction de l'ouvrage et de la résistance mécanique qu'on souhaite, etc. Et on associe, du coup, une épaisseur d'armature, par exemple, avec une épaisseur de béton qu'il recouvre sur une différente, en fonction de la hauteur, en fonction de l'élancement, etc. Ouais.
C'est un petit côté Lego, comme ça,
en fait. C'est très codé, ce sont des codes, en fait.
Et pareil, pour les métaux, oui, c'est sûr que, même pour tout, quel que soit le domaine, dans la conception, il y a quasiment maintenant tout ce qu'on soit par ordinateur avec donc déjà d'une part pour la partie conception mais aussi pour la partie modélisation compréhension déjà parce que ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet d'optimiser parce que vraiment d'aller chercher la conception optimale qui va minimiser par exemple le poids pour les meilleures résistances mécaniques, ce genre de choses là. Et après justement voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute on va dire qu'il y a des modélisations relativement entre guillemets, j'utilise vraiment les guillemets simples sur des matériaux toujours entre guillemets simple, avec des grandeurs physiques bien précises. Je pense au module Young, des choses comme ça. Enfin, vraiment des choses qui sont des propriétés mécaniques de base qui sont rentrées dedans. Donc ça, c'est des choses qui sont obtenues de façon expérimentale et ensuite qui sont rentrées dans les logiciels de calcul. Après, c'est pour les matériaux plus complexes, notamment les matériaux composites, où là, ça commence à être un peu plus compliqué à modéliser parce que là, forcément, on n'est plus sur des matériaux isotropes, c'est-à-dire qui ont les mêmes propriétés dans toutes les directions. Et ça commence vraiment à être très compliqué à modéliser. Mais oui, c'est quelque chose... La conception assistée par ordinateur est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Et la simulation des comportements matériaux, c'est vraiment aussi quelque chose qui est complètement intégré maintenant.
Par contre, ce qui est pas encore au sens, dans la communauté scientifique, ce qui n'est pas encore assez intégré, selon moi, c'est la longévité. C'est-à-dire que le code, au départ, il va définir, en fonction de la performance que l'on souhaite, il va définir la propriété mécanique, le type de béton, mais il ne va pas prendre en compte la durée de service ou la durée de vie de l'ouvrage en question. Donc là, on essaye, nous, dans la communauté, de le faire intégrer. Pour dire, si en fait vous dites il y a 3 cm de béton autour de l'acier, peut-être qu'en fait il faudrait en mettre 4 pour que ça tienne 50 ans ou 100 ans de plus, quoi.
Alors, à plus petite échelle, typiquement dans l'aéronautique, on a justement cette idée de longévité qui est quand même pris en compte parce qu'on a des pièces, typiquement sur les moteurs d'avion ou sur les avions, on a des pièces qui ne peuvent surtout pas casser. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'on les... Et dans ce cas, il faut qu'on les remplace à un certain temps. Donc, on caractérise et on valide ces pièces pour une certaine durée de vie, pour un certain nombre de cycles, un certain nombre d'heures. Donc là, clairement, la partie longévité de la pièce est quelque chose qui est très important parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une pièce qui casse et qui tue des centaines de gens.
Une autre question, je vous écoute parler depuis tantôt et je me dis, oh, c'est intéressant, je prends des notes qui vont sûrement servir. moi, je suis le profiteur de la table ronde. Et en nanotechnologie, il y a beaucoup de recherches sur les nouveaux matériaux qui ont des propriétés tout à fait extraordinaires. Et je n'ai pas étudié cette question, mais on parlait beaucoup de matériaux capables de s'auto-réparer. Je ne sais pas si vous deux ou... Vous avez travaillé avec ce genre de matériau et si vous pouvez en parler un peu pour le bénéfice de la salle, évidemment, pas le mien.
Alors, nous, on a fait des petites choses au laboratoire, mais effectivement, je peux un petit peu en parler. C'est tout ce qui est béton intelligent. On appelle ça les bétons intelligents. Alors, effectivement, il peut y avoir les bétons auto-réparants. Ce sont des bétons qui sont encore au stade du prototype, donc au niveau de la recherche en laboratoire. Je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà un ouvrage qui soit construit à base de béton auto-réparant. En fait, le principe, c'est qu'on va associer... Donc, là, moi, le procédé que je connais le mieux, c'est sur un béton qui est déjà fissuré, on va aller lui injecter des bactéries. Et ces bactéries, en fait, au contact avec de l'eau et du CO2, vont produire donc un produit de leur métabolisme qui s'appelle de la calcite, et qui va occuper un certain volume et qui va être capable donc de... En fait, elles vont s'auto-entourer de calcite, en fait. Et du coup, elle prend la place de la bactérie qui fait de l'ordre de 30-40 microns, micromètres, 10 puissance moins 6 mètres, pour ceux qui connaissent. Un millionième de mètre, ouais. Ça doit être l'épaisseur peut-être de 2 cheveux, je crois que c'est entre 10 et 50 un cheveu, 10-50 micromètres. Et la bactérie, elle va s'entourer de ce minéral. Et du coup, à terme, elle va pouvoir boucher la fissure. Après, il y a aussi des bétons qu'ils ont faits avec des produits de ce type-là à la construction pour s'auto-réparer. Et après, on a aussi maintenant les bétons intelligents qui sont développés pour les bétons dépolluants, par exemple, qui sont utilisés sur les stations essence, qui vont capter, en fait, par exemple, les hydrocarbures ou les produits pétroliers pour s'auto-réparer. Donc, effectivement, ils sont à base de nanomatériaux qui leur sont injectés parfois. Tout ce qui est aussi protection thermique du bâtiment. Donc là, on va aller pareil, associer en fait aux matériaux des particules qui vont lui donner des propriétés thermiques excellentes pour avoir un chauffage intégré, etc.
Est-ce qu'on a aussi des métaux intelligents ?
Sans doute, mais je ne les connais pas encore.
On a encore un petit peu de temps pour des questions, une dizaine de minutes. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a un micro qui se... Oui, il y a un micro qui arrive.
Un micro intelligent.
Sur pied.
J'aurais une question sur par rapport au béton, parce que au niveau des enjeux environnementaux, on sait que c'est des ressources qui rejettent énormément de CO2. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, notamment dans la création des nouveaux matériaux ?
C'est excellent. J'ai l'impression que vous avez préparé la table ronde avec nous, parce qu'en fait, on avait évoqué ce sujet avec Bénédicte. Donc, je suis ravie de pouvoir en parler. Oui, alors, en fait, la production en fait, du ciment, c'est l'industrie qui est la plus polluante au monde, en fait. Et donc, en fait, les cimentiers, leur priorité principale, c'est de développer des ciments qui ont le plus faible impact environnemental possible. Alors, pourquoi le ciment, ça pollue, la production du ciment ? Pour deux raisons. En fait, pour produire un ciment, on utilise du calcaire et de l'argile qui sont prélevés dans des carrières, en fait, et on les cuit à 1450 degrés. Donc, en fait, voilà, l'énergie qui est dépensée pour cuire à 1450 degrés, c'est énorme. Donc, ça, c'est déjà une première source d'utilisation d'énergie. Et en soi, lorsque la réaction de production, on va dire, de ce ciment que l'on appelle le clinker, lorsque la réaction se fait, en fait, ce produit produit lui-même du CO2 en plus. Donc c'est double peine, en fait, cette production. Donc les cimentiers, ils travaillent sur deux pistes. Et c'est vraiment des sujets d'actualité chez eux. La première piste, c'est d'essayer de développer des ciments qu'on va pouvoir faire cuire moins haut, jusqu'à 1200 déjà. Ça serait déjà bien s'ils arrivent à développer des ciments qui peuvent cuire à moins haute température. Et la deuxième piste, c'est de dire, lorsque l'on va construire un ouvrage avec du ciment, on va essayer de mettre un petit peu moins de ciment et de lui ajouter d'autres produits qu'on appelle des additions qui vont être, alors là où c'est encore très intéressant, c'est qu'ils vont être recyclés, notamment de l'industrie sidérurgique. Donc on va utiliser des laitiers de hauts fourneaux ou des cendres volantes qui sont recyclées de ces industries et que l'on va substituer en fait au ciment. Donc on mettra moins de ciment. On ajoutera des choses et du coup, en termes de volume de ciment utilisé, on sera beaucoup moins important. Et là où c'est très intéressant, c'est que ces nouveaux types de ciments, ils sont plus durables. Ils présentent de meilleures propriétés en termes de durabilité. Donc là, c'est peut-être un coup de bol, hein, mais du coup, c'est pour ça qu'ils sont aussi beaucoup développés. Ils sont très intéressants en termes de longévité.
Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question qui était plus en rapport avec le passage du temps, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect matériel du passage du temps, et parce que moi j'ai pensé justement à l'immortalité du numérique, qui était, je crois, une autre table ronde qui a eu lieu ici aux Utopiales, et je me demandais justement si on pouvait envisager cette immortalité matérielle, parce qu'on peut voir, on a vu dans les illustrations qui passaient là de UW2 sur les planètes, je crois qu'elles sont vidées d'atmosphère. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien qui se passe, et donc on peut rester à un état permanent de stase comme ça. Et donc, ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager aujourd'hui, une immortalité matérielle ? Est-ce que ça se conçoit ? Par exemple, si on voudrait voyager dans l'espace, il faudrait quelque chose qui soit durable, je ne sais pas, oui, peut-être éternellement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, parce qu'on ne sait pas si on peut trouver des pièces de rechange en chemin.
Déjà, le problème, c'est que l'espace n'est pas vide.
Oui, non, c'est pas vide.
Oui, et oui, mais on va si ça dure très longtemps, on va avoir percuté un nombre de matériaux illimité quasiment. C'est-à-dire que ça, avec le temps, augmente le nombre de risques de collision avec des micrométéorites, avec des micro-choses. Et donc, si on veut faire durer, on va se retrouver avec ce problème-là qui va être le problème numéro un, à mon avis.
Ah, clairement, je pense que les collisions avec les particules, ça va être un problème. Les radiations aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui traînent là-haut et les matériaux, ils risquent de ne pas émettre des masses. Donc, oui.
Côté béton, c'est pareil, je suis désolée, mais c'est inéluctable. Le béton, il va se dégrader. On aura beau faire le meilleur du monde, un jour, le MUSEM, il présentera des fissures. Mais très tard, mais un jour.
Donc, il va falloir rapprocher les planètes. Ça va être plus simple.
C'est vrai qu'il y a un sujet de table ronde de demain matin avec vous, Valérie.
Après-midi, ah oui, venez nombreux.
si l'humanité disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Sans vouloir dévoyer complètement la table ronde, il faudra combien de temps pour faire disparaître toutes les traces d'ouvrages humains ?
Alors là, je vais faire une réponse qui va tous vous faire réagir. Ça dépend. Ça dépend de l'environnement, comme on l'a dit. Donc ça dépend de... dans l'expérience de pensée, on va essayer d'imaginer. Donc je vais la faire demain avec mon collègue Alain Musset, à 16h demain. Donc déjà, ça va dépendre selon l'idée qu'on a, l'imaginaire qu'on a de l'événement qui fait qu'il n'y a plus d'humanité. L'environnement, du coup, qui est présent. Le type de matériaux, un acier ou un béton. Donc demain, on parlera par exemple de la Tour Eiffel. On évoquera les représentations, par exemple, de la Tour Eiffel dans les BD dans 300, 600 ans. Et puis moi, j'ai un apport scientifique à faire pour essayer de voir si c'est réaliste ou pas. Côté béton, pareil.
On voit déjà, j'avais été en Guyane quand j'étais gamin, visiter le centre de Kourou, et on avait été sur les îles, île du Diable, etc. Et j'avais vu des bâtiments mais éventrés par des arbres gigantesques, etc. Et dans ma tête, je m'étais dit, tiens, c'est à l'abandon depuis le 19e siècle. Et il m'avait dit, ah non, ça fermait en 65. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle une forêt tropicale, par exemple, peut détruire les matériaux, les ouvrant, explosant les bâtiments, puis réduisant après, en hachant menu tout ce qui va dégringoler, si la planète, par exemple, passe en surchauffe, il va pas rester grand-chose assez rapidement. Bon, une bonne glaciation serait plus sympa pour qu'on laisse des résultats. Vous remarquerez que dans IA de Spielberg, ils reviennent sur la fin, on voit des extraterrestres qui reviennent sur Terre et il y a une banquise générale. Et là, en effet, en découpant la banquise, ils tombent sur un New York en parfait état, le petit enfant robot, etc. Donc, je pense qu'ils avaient fait ce choix-là justement d'aller exactement à l'inverse du réchauffement parce qu'autrement, il y avait un problème de conservation.
Il y a encore une minute pour une question.
C'est juste pour vous dire ce que vous avez dit. En fait, combien de temps il faut pour se dégrader en fait, toutes les constructions de l'humanité. Il y a une très bonne série américaine, je crois, c'était Une vie après homme. Et c'est très bien expliqué. Donc, c'est juste entre parenthèses. Et j'ai une question à M. Benjamin concernant votre pyramide des 100 000 ans. Est-ce que c'est envisageable parce que, bon, madame, elle a évoqué la pyramide d'Égypte qui est encore là, mais elle ne date que 4 000 ans. Et vous voyez les sphinx qui lui manquent des nez, et tout, etc. Et il est déjà en dégradation. Pourtant, l'Égypte, il dépense beaucoup d'argent pour les entretenir. Donc, est-ce qu'effectivement, la pyramide des 100 000 ans est envisageable à l'état actuel des choses qui résiste à toutes les intempéries, etc. Et bon,
Moi, je travaille un peu sur la problématique des déchets nucléaires. Donc, on se pose cette question, puisqu'on a à gérer... je ne travaille pas directement sur les déchets, mais je travaille sur le béton qui va entourer les déchets. Donc, on se pose des questions de cet ordre-là de grandeur, de temps, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Nous, dans les scénarios, on considère et on assume le fait que le béton va être dégradé.
C'est ça.
On ne va pas partir du principe que dans 100 000 ans, il y aura encore du béton. Donc, non, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait c'est inéluctable. Le béton, il va se dégrader et ses performances, elles vont. Le nez va se décoller, va se décrocher. Donc non, c'est pas 100 000 ans. Ça me paraît un peu optimiste.
Je me contenterai de 5 000.
Là, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup.